France Inter. Le 18-20. Pierre Veille.
Et c'est le téléphone sonne jusqu'à 20h, c'est votre émission, vos appels, vos courriels et ce soir, le reconfinement que nous vivons en ce moment. Il est moins strict que celui du printemps, les écoles, collèges, lycées sont ouverts, cafés, restaurants, lieux culturels fermés, dont les librairies, les commerces non essentiels fermés, maintien du travail dans de nombreux secteurs. Conséquence, vous le voyez tous les jours, il y a quand même du monde dans les rues. Moins que d'habitude, mais enfin c'est pas la situation du printemps, hein, ce calme tout à fait étrange dans les rues. Clairement, le gouvernement veut freiner l'épidémie sans casser trop fort la machine économique, une sorte de compromis qui fait beaucoup de mécontents. Ceux qui subissent les fermetures, des médecins qui jugent que ce confinement n'est pas assez strict, et puis les Français sont souvent dans l'incompréhension, la contestation. Il y a certainement une lassitude face à cette épidémie dont peut-être ils ne mesurent pas les dangers. Et sur tout cela, on attend maintenant vos questions.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Pour vous répondre en ligne avec nous, et merci d'être sur France Inter, Catherine Hill, ancienne épidémiologiste à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy à Villejuif. Bonsoir Catherine Hill.
Bonsoir.
Et puis dans ce studio, à mes côtés, et masqué, évidemment, nous le sommes tous, Frédéric Valtoux, bonsoir.
Bonsoir.
Président de la Fédération hospitalière de France, maire du parti Agir, maire de Fontainebleau. On va aller au standard. Premier appel, Jacques est dans l'Essonne et veut intervenir. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Allez-y.
Voilà, bonsoir à tous et bonsoir aux intervenants et aux participants de l'émission. Moi, je trouve que lorsque je vais à Paris, je suis dans l'Essonne, je suis pas très loin. Mmh. Dans les transports en commun, les gens mettaient le masque sous le nez quand c'était pas extrêmement bondé. Dans la rue, souvent les gens, il y a beaucoup de monde, beaucoup plus de monde. Et puis souvent, ils ont ce réflexe-là d'être un peu, comment dire, insouciant. Mmh. Remarquez. D'autre part, on trouve effectivement, je vous dis, beaucoup plus de monde. Dans les écoles aussi, les enfants, on a l'impression, on a l'impression que c'est un confinement d'opérette. Je comprends que l'économie, et je vous dis pas, quand je rentre dans l'Essonne, moi, le soir, le métro, le nombre de personnes qu'il y a, les unes sur les autres, à 20 cm, là, la distance barrière, elle est loin. Donc, je pense que c'est un confinement d'opérette et je crois pas qu'avec ces mesures-là, ils vont faire diminuer les chiffres de la contamination qui sont quand même assez extravagants.
Eh bien Jacques, on va vous répondre. Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France. Jacques parle d'un confinement d'opérette.
Je ne sais pas si le mot confinement d'opérette est le mot juste, mais à la rigueur, on le saura dans quelques semaines lorsqu'on verra les premiers chiffres qui montreront si effectivement ce confinement-là a un impact et est différent de celui du printemps. Ce qui est clair, c'est que c'est un confinement qui est moins strict, moins cadré, moins rigoureux que celui du printemps.
Mais il peut être efficace ?
Qui peut-être sera efficace. En tout cas, ce qui est paradoxal, et c'est peut-être une des premières choses qu'on peut souligner, ce qui est paradoxal, c'est que c'est un confinement dans lequel finalement on est rentré assez tard par rapport à une deuxième vague qui avait déjà une puissance et une pression sur le système hospitalier plus forte qu'au printemps. Quand on rentre dans le premier confinement le 17 mars, les lignes hospitalières sont moins sollicitées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et donc pour les hospitaliers, on est déjà rentré beaucoup plus dans la deuxième vague que lors du premier confinement au printemps. Et au printemps, effectivement, on impose un confinement beaucoup plus strict qu'aujourd'hui. Donc c'est déjà un paradoxe et une différence. Ce qui, et là je le dis effectivement comme président de la Fédération des hôpitaux de France, les retours que nous avons des hôpitaux marque une vraie inquiétude face effectivement à un confinement qui pourrait être moins compris, dont les enjeux pourraient être moins compris par les Français que lors de la première vague, avec une crainte effectivement que la pression ne baisse pas assez sur les lignes hospitalières, ce qui pourrait effectivement faire confronter les hôpitaux à des pressions beaucoup plus fortes.
On saura quand, si ce nouveau confinement est efficace, on verra des résultats dans combien de temps ?
Les médecins disent qu'il faut 15 jours, 3 semaines, et je pense que c'est pas avant 15 jours, 3 semaines qu'effectivement on pourra voir si ce confinement a de vrais résultats. On a déjà vu que le couvre-feu n'en avait pas eu beaucoup. Il faut espérer que ce deuxième confinement en aura.
Catherine Hill, épidémiologiste, que pensez-vous de la remarque de Jacques qui trouve que ce confinement, finalement, c'est de l'apparence et ça ne sert pas à grand-chose?
Il a raison. D'abord, on a commencé ce confinement beaucoup plus tard que le précédent et les choses vont tout aussi vite que dans le premier épisode. Au moment du premier confinement, on a confiné plus tôt et les choses étaient dans la même accélération. On en est à 400 morts par jour et on était à beaucoup moins au début du premier confinement. On était à 1000 arrivés à l'hôpital par jour et là on en est à 2000, plus de 2000, nettement plus de 2000. Les arrivées en réanimation sont à peu près ont la même dynamique. Et comme on confine moins sérieusement, les enfants vont à l'école, les gens vont travailler, comme vous l'avez très bien dit, ça va mettre plus longtemps. Les choses vont mettre plus longtemps à s'apaiser. Et donc, pour l'instant, on est dans une phase d'accélération et les hôpitaux sont déjà en grande, grande tension. Donc, j'ai peine à imaginer comment ça sera dans 15 jours ou 3 semaines quand on atteindra le pic. Ça va être assez catastrophique. Et personne n'a l'air de prendre ça très au sérieux. Voilà.
Mais donc, selon vous, Catherine Hill, il aurait fallu instaurer un confinement général, très dur, comme au printemps?
Beaucoup, oui, et plus tôt, très dur, et surtout, moi, je pense, et je le dis depuis longtemps, qu'il faut confiner pour tester massivement la population. Et ça a l'air d'être complètement un blocage total. Personne n'a l'air de comprendre qu'on peut dépister massivement la population.
Et c'est ça qu'il faut faire. De quelle façon?
En utilisant des tests groupés, en utilisant des tests antigéniques, en recherchant le virus dans les eaux usées, en utilisant tous des nouveaux tests qui existent. Il y a toutes sortes d'outils. Il y a des tests rapides. Il faut utiliser tous les moyens à disposition pour trouver des gens qui sont positifs. On nous dit qu'il y a 1 500 000 cas. Et en même temps, on sait qu'en mai, on estimait que 3 millions de gens avaient eu le Covid. Donc les cas qu'on trouve, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le problème, c'est que ce virus circule à travers des gens qui sont asymptomatiques, qui ne se savent pas contagieux et qui contaminent autour d'eux. Si on ne trouve pas ces gens et qu'on ne les isole pas, l'épidémie continue.
Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France.
Oui, je suis assez d'accord. Je le disais, on est rentré trop tard dans ce confinement et j'ajoute à ce qui vient d'être dit par Catherine Hill, le fait qu'il faut aussi sans doute beaucoup, de manière beaucoup plus stricte et beaucoup plus tôt qu'on ne l'a fait lors du premier confinement, réfléchir au process de déconfinement, c'est-à-dire aux modalités du déconfinement. On voit bien qu'on a sans doute raté après le premier confinement les semaines de déconfinement et que finalement il faisait beau, l'été était là et sans doute une certaine indolence s'est installée.
Ça veut dire quoi, rater un déconfinement? Qu'est-ce qu'il fallait faire?
On a sans doute pas tiré tous les enseignements, qu'on a mal calibré effectivement la stratégie de dépistage et d'isolement qui pourtant avait été mise en avant par les pouvoirs publics. Or, on sait qu'elle a donné très peu d'effets et que là-dessus, on a beaucoup à apprendre du raté de cette période. Donc, ne recommençons pas. Et puis tirons effectivement toutes les leçons de ce qui n'a pas marché, et notamment effectivement comme ça a été dit, dans le dépistage. Donc, et puis il faut être beaucoup plus clair vis-à-vis des Français. Déconfiner, ça ne veut pas dire revenir à l'avant-crise. Ça veut dire accepter encore que pendant des semaines et des semaines, on pose là aussi des règles simples et claires qui permettront de ralentir la transmission virale.
Serge. Bonsoir Serge, vous écoutez France Inter, vous patientez depuis une dizaine de minutes. Merci d'avoir été patient. Et c'est à vous maintenant en direct sur Inter.
Merci, je suis enseignant, moi, en Seine-Saint-Denis, au Lila. Et je voudrais emprunter un peu un ton inquiet, même solennel, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions et de colère, parce que enseignant, je rejoins ce qu'a dit Catherine Hill. On rejoint Catherine Hill parce que on est obligé là dans cette période de confinement de traiter des élèves asymptomatiques pour la plupart, tous les épidémiologistes le disent, et sans pouvoir mettre en place des protocoles sanitaires qui annoncent ce que disait Catherine Hill. Nous sommes absolument révoltés. Et pour ça, on est obligé soit de se mettre en droit de retrait, ce qui est le cas aujourd'hui, on nous assimile à la grève, ou des collègues qui sont en grève, comme en Seine-Saint-Denis ou comme au collège à Brassens, à Persan, par exemple, d'autres collèges dans toute l'Île-de-France et ailleurs en France. Et on est tout à fait révolté, quoi. Être obligé aujourd'hui pour rejoindre l'intérêt collectif, et ce que disait Catherine Hill et les épidémiologistes, tout en continuant évidemment à maintenir l'école parce qu'on sait quels sont les ravages qui ont été faits durant le premier confinement, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'on s'y prenne et on avance. Un protocole de déconfinement avec les dédoublements des classes et tout le monde, l'administration, le ministère, est absolument sourd et c'est gravissime, quoi, par rapport à ce que disait Catherine Hill, aux perspectives qu'on nous propose, quoi. Voilà, donc je suis désolé d'être aussi en colère, mais je suis vraiment, on est vraiment révolté, quoi, devant cette situation.
Mais Serge, vous estimez qu'en exerçant votre métier actuellement face à vos élèves, qui sont nombreux dans des salles de classe, vous êtes en danger, vous mettez votre santé en danger, c'est ça?
Alors, c'est pas seulement le danger des personnels, vous voyez, parce qu'on pourrait dire, ah, mais les enseignants, toujours à râler. Non, là, on pose la question de l'intérêt collectif. Il faut continuer l'éducation, sinon on creuse les inégalités. Ça, c'est clair, et ça a été montré au premier confinement. Donc, on veut continuer, mais dans les conditions qui permettent la sécurité et les protocoles sanitaires, qui protègent les enseignants, qui
mais ce serait quoi, les bonnes conditions?
Le dédoublement. On a proposé un dédoublement des classes et c'est par ce dédoublement qu'on nous permet vraiment de maintenir les gestes barrières, les distances et qui permet à la fois d'assurer l'éducation et en même temps la sécurité des personnels, des enfants et des familles.
Mais il y a la place, mais vous avez les locaux pour cela et le personnel?
Alors, le problème, c'est le personnel qui s'occupe de la sécurité, qui s'occupe de l'entretien, qui est aussi en grande, grande difficulté en nombre, en qualité, en entretien. Hein. Ça, c'est très inquiétant aussi.
Et plusieurs syndicats de l'éducation nationale appellent à la grève mardi, le 10 novembre, pour protester contre les mesures sanitaires mises en place dans les établissements scolaires. Catherine Hill, épidémiologiste, sur ce témoignage de cet enseignant, Serge.
Oui, je comprends, c'est effectivement inquiétant. Dans l'idéal, on devrait tester les enfants une fois par semaine. C'est ce qu'on fait dans les universités américaines. Et comme ça, le virus ne rentre pas dans les écoles. Mais ici, on n'a rien prévu de tel. Et d'ailleurs, on vous parlait de déconfinement, mais moi je dis que c'est pendant le confinement qu'il faut organiser un dépistage de masse avec des tests antigéniques, comme on a fait en Slovaquie, comme on est en train de le faire à Liverpool. Il faut tester massivement la population pour trouver les gens qui sont positifs et les isoler rapidement. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que les gens soient symptomatiques. Ils sont déjà contagieux depuis 4 jours, le jour où ils ont des symptômes en général le 5e jour. Ils se font tester 3 jours après, le 8e jour, et on leur donne les résultats le 9e jour. Donc le 9e jour, on s'aperçoit, on leur dit « vous étiez contagieux depuis 9 jours ». Mais c'est trop tard, ils ont déjà contaminé autour d'eux. Donc tout le système pédale dans le vide, et on va rechercher les contacts de ces gens. S'ils ont contaminé quelqu'un il y a 7 jours, ce quelqu'un est déjà contagieux et a déjà contaminé autour de lui. Donc tout le système de tester, tracer, et ne pas isoler, ne fonctionne absolument pas. Et on fait ça depuis le déconfinement début mai. Tout ce qu'on a fait depuis début mai était absolument pas adapté à la dynamique de ce virus. Ce virus est caché dans les asymptomatiques et de toute façon, il va très vite. Il faut aller aussi vite.
Frédéric Valtoux, pour la Fédération hospitalière de France, appelle à une grève sanitaire dans les lycées mardi prochain.
Est-ce que j'appelle à une grève sanitaire?
Non, je veux dire, il y a cet appel à une grève sanitaire dans les lycées mardi prochain. Est-ce que vous comprenez ce mouvement, cette inquiétude des enseignants?
Oui, je comprends l'inquiétude des enseignants. Ça rejoint ce que je disais avec Catherine Hill. On exprime la même idée que en sortie de confinement au printemps, on a mal ajusté, on n'a pas ajusté, on a raté finalement toute la stratégie de dépistage et qu'on n'a pas les idées tellement plus claires quelques mois après, et que si on ne prépare pas mieux, soit en testant, on profite de maintenant pendant ce deuxième confinement, soit en préparant mieux la sortie de ce confinement, eh bien c'est une troisième vague qu'on prépare pour le début de l'année 2021, en tout cas le premier trimestre. Donc c'est vrai qu'il y a là-dessus il y a un défaut de la stratégie française qui est claire et qui effectivement que l'on retrouve avec l'ouverture des écoles, des collèges, et ce qui interroge plus des lycées.
Ce courriel de Sylvie, que peut-on apprendre de la gestion du Covid en Corée du Sud ou à Taïwan qui semble avoir parfaitement fonctionné? Catherine Hill.
Ce sont des endroits où on a testé très largement autour des cas au début. Et on peut aussi parler de la Chine, on peut aussi parler de la Nouvelle-Zélande, on peut aussi parler de l'Australie.
Ou du Japon.
La clé, c'était de tester énormément au début. Et nous, on n'a pas testé beaucoup au début. Et quand on voit, par exemple, il y a eu une résurgence de l'épidémie à Pékin en juin ou en juillet, je me souviens plus. Il y a eu zéro cas pendant 45 jours. C'est pas tout à fait vrai, il y a eu un cas le 3 juin. C'était en juin. Le 6 juin, il y a eu un cas. Le 7 juin, il y a eu 6 cas. Le 8 juin, il y a eu 35 cas. Ils ont confiné une partie de la ville. Pékin, l'agglomération de Pékin, c'est 22 millions d'habitants. Ils ont confiné une partie de la ville. Ils ont testé 2 300 000 personnes pour trouver quelques centaines de cas. Mmh. Donc, ils sont capables de faire 2 millions de tests pour trouver quelques centaines de cas. Et l'autre jour, j'ai entendu M. Véran dire qu'on avait beaucoup testé et qu'il y avait 1% de tests positifs en juin. Et donc, ça prouvait que c'était très bien. Mais l'exemple de cette histoire de Pékin nous montre que c'est 1 pour 10 000. Il faut trouver les aiguilles dans les bottes de foin. C'est comme ça qu'on contrôle l'épidémie. Il faut trouver les quelques positifs qu'il y a. Mais ici, maintenant, on en a énormément. On ne sait même pas combien il y a de gens qui sont positifs aujourd'hui en France.
Chloé est dans le Grand Est et souhaite intervenir. Bonsoir Chloé. Chloé, êtes-vous...
Aux intervenants.
C'est à vous maintenant. Chloé, êtes-vous là? Oui.
Oui, je suis là. Vous m'entendez?
Bienvenue sur France Inter. C'est à vous.
Merci Pierre. Bonsoir à vos intervenants. J'ai une question relativement toute simple, mais qui rebondit sur énormément de choses et de discours que j'entends depuis quelques jours. J'entends l'urgence sanitaire et j'entends l'urgence hospitalière de ce reconfinement. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Maintenant, on a aussi d'énormes difficultés économiques sur beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité, de commerce, de petits commerces. Revenir à un confinement général au mois de mars aurait été extrêmement compliqué pour énormément de personnes. On a décidé de maintenir les écoles ouvertes et je remercie le travail que font tous nos enseignants et les directeurs d'école qui nous permettent à nous parents de pouvoir continuer à travailler et télétravailler comme je le fais depuis 6 mois quasiment maintenant. Ma question, pourquoi ne prenons pas nous le choix, ne prenons-nous pas le choix pour limiter les déplacements des gens, parce qu'effectivement beaucoup de gens sont dehors, pourquoi ne laissons pas ouvrir quelques commerces de proximité qui nous permettraient à nos parents, en emmenant nos enfants à l'école, en allant les chercher, ou bien en utilisant notre heure de journée par jour de promenade, entre guillemets, pourquoi ne pas laisser ouvert les commerces qui sont à côté des écoles? Il y en a plein. Ça résoudrait beaucoup de choses au niveau des petits commerces et des commerçants qui respectent tous les gestes barrières. Et on ferme, alors je sais que c'est compliqué, mais on ferme les grands hypermarchés pour un temps limité. Mais si dans l'urgence que nous rencontrons maintenant, c'est d'essayer de faire en sorte que moins de gens soient dehors, et qu'économiquement ça puisse profiter à nos petits commerces, pourquoi n'allons pas dans cette direction ?
Frédéric Valtoux.
Alors, je suis pas un spécialiste du commerce, mais je suis maire, c'est vrai que si vous voulez, d'abord laisser quelques commerces, selon quels critères et quels choix, proche des écoles, selon le type de commerce. Enfin, ça, c'est votre proposition. Je vois bien ce qu'elle veut dire, c'est que dans ce deuxième confinement, on a l'impression effectivement qu'on a tiré un trait sur le petit commerce au bénéfice des grandes surfaces. Je lisais ce matin dans la presse économique, il faut quand même rappeler que les Français massivement se nourrissent, c'est-à-dire vont acheter principalement de quoi s'alimenter dans les grandes surfaces. On peut du jour au lendemain essayer de les réorienter massivement vers les petits commerces, mais il faut aussi regarder ce qu'est la réalité des pratiques de consommation des Français. Je ne suis pas un défenseur en disant ça des grandes surfaces, puisque moi-même dans ma ville, j'ai énormément de petits commerces qui souffrent et je passe beaucoup de temps avec eux. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, si les commerces ont été fermés, c'est pour limiter, et ce que je comprends de la stratégie du gouvernement, c'est de limiter les flux et donc les interactions dites sociales et les risques, effectivement, de c'est pas le risque qu'on prend, il n'y a pas de cluster dans les petits commerces. Mais si vous laissez tous les commerces ouverts dans une rue, vous avez plus de chances que cette rue devienne beaucoup plus passante, qu'il y ait des flux, des gens qui font leurs courses, etc.
Mais des flux, il y en a dans les grandes surfaces.
Mais il y en a aussi dans les grandes surfaces, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça que, je pense qu'aujourd'hui, le petit commerce parmi les établissements qui ont été fermés et qui pourraient mettre à mal les conditions sanitaires, ce serait effectivement les petits commerces qui ont montré en mai-juin qu'ils étaient capables d'appliquer des protocoles très stricts, et en tout cas dans ma ville et partout ils l'ont fait.
C'est oui, vrai parce que dans les petits commerces, on voit souvent cette inscription sur la vitrine, pas plus de deux clients.
Oui, bien sûr,
à pas l'intérieur.
Plus de deux. Beaucoup
alors,
se sont mis
à l'extérieur,
à la...
il faut
beaucoup
attendre.
Se sont mis à la livraison, beaucoup oui. Se sont mis effectivement à développer une visibilité sur des sites et sur Internet pour provoquer des commandes. Bon, beaucoup se sont adaptés, ce qui montre d'ailleurs une grande qualité de souplesse. Après, en ouvrir certains plus que d'autres, là, c'est ouvrir des débats sur qui mérite d'être ouvert par rapport à qui ne le mérite pas. Et je ne suis pas sûr qu'on trouve les bons critères.
C'est toujours cette sorte de compromis que cherche le gouvernement, c'est-à-dire freiner l'épidémie. Moins de monde dans les rues, en même temps l'activité économique doit se poursuivre, sinon ça peut être la ruine pour tout le pays. Est-ce que vous comprenez cette situation très difficile pour le gouvernement, compromis entre la santé des Français, l'épidémie qui progresse, qui va de plus en plus vite, et en même temps il y a une économie, il y a un fonctionnement et il faut éviter la ruine, des faillites à répétition, des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires. Catherine Hill.
Mais c'est une erreur fondamentale de penser que la santé et l'économie sont deux points de vue opposés. En réalité, si on décidait de faire comme on fait les pays qui ont contrôlé l'épidémie et qui vivent relativement normalement maintenant, si on décidait de tester massivement la population à répétition, oui. Peut-être deux ou trois fois, dans le courant du mois de novembre, dans le courant du mois de décembre, on pourrait sortir de cette crise et mener une vie normale. L'autre intervenant parle de aménager le déconfinement. Ça, c'est, on va retourner exactement dans le même cirque que celui par lequel on est déjà passé une fois. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut s'organiser pour trouver des gens qui sont positifs et qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire des gens qui, on peut pas dire connaître, c'est tout le monde. Et la seule solution, c'est de tester massivement la population. Avec les tests groupés, on peut le faire. Avec les tests antigéniques, on peut le faire. Oui. Il suffit de décider de le faire. Et donc, là, on est en train de plomber les arguments économiques. Ça sera beaucoup moins cher d'organiser un dépistage massif. Je pense que Boris Johnson va se décider à le faire en Angleterre dans pas très longtemps, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Le reste, c'est de la foutaise. Cette histoire de maintenir l'économie et en même temps d'avoir tous les jours plus de morts, plus de gens qui arrivent en réanimation, plus de gens qui arrivent à l'hôpital, c'est pas une solution. Donc là, on va dans le mur.
Adrien est avec nous. Bonsoir Adrien.
Oui, bonsoir.
Vous êtes médecin, je le lis sur mon ordinateur, c'est cela ?
Oui, tout à fait. Donc je suis médecin polyvalent, je travaille dans une unité de médecine polyvalente et unité Covid depuis le début de la crise. Mmh. Moi, je souhaitais réagir et témoigner parce que j'avoue avoir été plutôt irrité de ce reconfinement. Je vis la maladie Covid-19 en soi dans mon quotidien professionnel depuis le début de la crise. Cette irritation-là, le symbole, c'est quand j'ai appris que mon fils de 7 ans devait porter un masque à l'école. Sur le plan sanitaire, j'ai trouvé que ça n'avait aucun sens véritable. Et derrière mon irritation, elle vient surtout du chemin qui a été pris depuis le déconfinement où quand même cet été, ça fait 4 à 5 mois que, scientifiquement parlant, on sait que une deuxième vague par rapport à l'histoire d'un virus va venir. Et j'ai la sensation qu'il n'y a eu aucune anticipation de ce versant-là en termes de pédagogie de la santé sur la Covid-19, là où j'ai des reproches à faire à nos décideurs, au conseil scientifique qui murmure également à l'oreille des décideurs et aux médias également, c'est que cette pédagogie de la santé-là, aujourd'hui, on est resté dans un contexte anxiogène, avec beaucoup de peur, des interactions humaines qui ont été mises à mal. Et je trouve que il y a aucune anticipation de l'avenir et des traces que ça va laisser. Aujourd'hui, mon quotidien dans le service, c'est des gens qui sont morts de peur avant d'être morts du Covid et qui ont besoin d'une information claire, et elle aurait pu être faite sur les durées d'infestation qu'on peut avoir quand on est touché et la façon dont c'est abordé à l'échelle de la population, avec un comptage du nombre de cas, un comptage du nombre de morts, un comptage et une anxiété. Je trouve que aujourd'hui, il faudrait qu'on s'interroge sur les bénéfices réels. J'ai l'impression que voilà, il y a plus de délétère pour le futur de l'ensemble de cette ambiance là. Et en termes de pédagogie de santé, je pense que le virage a été mal pris.
Clairement. Adrien, vous parlez d'anticipation, un manque d'anticipation au moment du premier déconfinement. Que voulez-vous dire par là? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Mener des campagnes d'information, rester prudent, porter le masque, garder la distance? Mais ça a été fait.
Alors à côté de cette information qui aurait dû changer en termes d'ambiance, en termes d'état d'esprit, je rejoins l'intervenante qui dans la stratégie de dépistage il fallait faire autre chose, le tracing il fallait l'utiliser d'une autre manière et de façon beaucoup plus adaptée. Moi scientifiquement parlant, je comprends pas que à un moment donné sur le nombre de cas asymptomatiques qui étaient testés avec le principe du tracing pour dépister les cas autour, on n'ait pas laissé le virus circuler parmi ces gens qui sont jeunes et qui vont avoir en effet des symptômes, peut-être parfois asymptomatiques pour certains, mais qui globalement ne vont pas mourir de la maladie. Et dans l'histoire d'un virus, cette circulation-là, elle aurait pu être expliquée d'une autre manière. Et la pédagogie, le rapport à la peur plutôt que l'information claire sur une situation, je pense que ça, c'est un chemin qui aurait dû être pris.
Merci Adrien. Frédéric Valtoux, on parle du traçage actuellement, mais on fait beaucoup de tests en ce moment. Après, il y a un traçage, mais il semblerait que les services qui sont en charge de suivre, ils sont totalement débordés. On manque de personnel.
On teste, on trace, mais on n'isole pas. Et donc, finalement, cette logique, cette stratégie, elle ne peut avoir d'efficacité que si on la porte jusqu'au bout. Et si on s'arrête en chemin, bien sûr, on comprend tout de suite que ça n'en a pas. Et c'est un peu ce qu'on vit, effectivement, depuis ce premier déconfinement. Il y a effectivement beaucoup d'enseignements à retirer de la manière dont on est sorti du premier confinement. Il faut aussi se souvenir que cet été, il n'y a pas simplement le retour des beaux jours, du soleil et d'une certaine insouciance que j'évoquais. Il y a aussi un débat public qui a été aussi beaucoup squatté par des gens et des médecins qui expliquaient que jamais il y aurait une deuxième vague, que on a eu des débats sur le plan scientifique qui, pour les Français, ont pu paraître confus, où finalement ceux qui portaient la voix de « attention, quand il y a une épidémie, il y a toujours des vagues qui reviennent », étaient moins entendus que d'autres. Donc c'est vrai que cette confusion des analyses et des prises de parole scientifiques n'a pas aidé à la clarté, je pense, pour les Français. Ça, en tout cas, ça a participé au caractère un peu illisible de tout ça.
Frédéric, bonsoir. Frédéric écoute France Inter, vous vous trouvez, si je lis bien mon ordinateur,
à Pau.
à Pau, voilà, c'est ça. Allez-y.
Bonsoir à tous. Bon, il me semble que le confinement est insuffisant. Alors, beaucoup de choses ont été dites là-dessus, mais il est insuffisant surtout parce qu'il manque le volet médical. Disons que le confinement, les différentes mesures cherchent à éviter des malades. Néanmoins, comme on n'éradiquera pas la maladie, les malades arriveront petit à petit pour les soigner. Alors pour les soigner, ben il faut du matériel, du personnel. On va raconter un petit peu des balières en disant qu'il faut des années pour former un médecin ou une infirmière en réanimation, ça me semble inexact. Ils ont un fonds de technicité qui fait que depuis le mois de mars, on aurait dû augmenter considérablement le nombre de personnels, empêcher la fuite de personnel en le payant convenablement, en titularisant du personnel. Ça aurait pu être fait, ça aurait dû être fait, ça devrait être fait maintenant. À mon avis, il faut le faire.
Merci d'avoir témoigné, Frédéric Apeau, sur ce que vient de nous dire cet auditeur, Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France.
C'est vrai que cette épidémie, on n'a pas fini de le dire et de le vivre et de le constater. Elle nous a frappés à un moment de notre histoire contemporaine où notre système de santé était très affaibli, où notre système hospitalier l'avait été par, j'allais dire, des années d'une politique avait réduit fortement ses moyens, l'avait mis dans une seringue d'économie sans fin et nombreux étaient les voix qui, effectivement, plaidaient pour une meilleure considération. Quand je dis considération, c'est pas simplement une considération morale, mais une meilleure prise en compte de ce que devait être la modernisation de notre système de santé. Pendant des années, personne s'en est vraiment occupé, et aujourd'hui, quelque part, on le paye cash.
Comment voyez-vous les prochains mois ? Là, on a un reconfinement qui est moins strict que celui qu'on a connu au printemps. Vous imaginez que cela va donner des résultats ? Et puis, on aura peut-être une troisième vague. Et à nouveau, il faudra décider en fonction de la gravité, du nombre de cas, de nouveau un grand coup de frein, un confinement général ou encore une fois un confinement avec certaines mesures.
Il n'est pas question de faire ça.
Catherine Hill, épidémiologiste. Et puis après, la réponse de Frédéric Valtoux. Allez-y, Madame Hill.
Mais non, on ne peut pas continuer comme ça. Il n'est pas question de faire ça. Il faut comprendre qu'il faut trouver les cas avant qu'ils soient symptomatiques. Et
mais on teste actuellement. On teste beaucoup.
Mais non, absolument pas. On a estimé qu'en juin, 4,5% de la population avait attrapé le Covid. Ça fait à peu près 3 millions de personnes. Les cas qu'on avait trouvés à ce moment-là, c'était 600 000. Les cas qu'on trouve et les contacts de ces cas qu'on étudie, c'est une toute petite partie de la circulation du virus. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça la réalité. Donc, en ce moment, en Angleterre et en ce moment en Slovaquie, il y a un peu plus de 1% de la population qui est positive quand on teste en Angleterre un échantillon représentatif et en Slovaquie, pratiquement toute la population adulte. Et si en France, il y a 1% de gens positifs en ce moment, le 1 600 000 cas qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est une toute petite partie de la circulation du virus. C'est ça que les gens n'ont pas l'air de comprendre. C'est pourtant facile à comprendre. Le virus circule avec des asymptomatiques, on ne les trouve pas. On cherche les cas qu'on trouve, c'est une toute petite fraction des cas. On cherche les contacts de ces cas. Mmh. Il y a une statistique très intéressante. Sur 4 cas qu'on trouve en ce moment, il y en a un seul qui est un contact d'un cas connu. Donc l'histoire de tester, tracer ne marche pas parce qu'on ne teste pas assez. On ne trace pas assez non plus. Et donc, les contacts qu'on trouve, c'est une toute petite partie des cas.
Frédéric Valtoux.
Je crois qu'effectivement, tout le monde a compris, et on le répète tout à l'heure, qu'effectivement, il y a du côté de la stratégie de test et de traçage et d'isolement, effectivement, énormément de progrès à faire, et notamment une stratégie beaucoup plus claire à poser en France et des moyens beaucoup plus forts à mettre en œuvre. Au-delà de ça, je pense que, par rapport à votre question, on part sur un combat de long terme. On part sur un combat, effectivement, vis-à-vis du virus, qui va nous amener à profondément, vous continuez à voir nos modes de vie changer par des interactions sociales un peu freinées, par du port du masque qui va sans doute durer encore pendant quelques mois, par cet environnement que l'on connaissait pas, que l'on découvre depuis quelques mois, mais qui va être notre quotidien pour, je pense, encore longtemps.
Guillaume, bonsoir Guillaume. Merci bonsoir. D'être avec nous. Au téléphone sonne, c'est à vous. Vous êtes à Rambouillet.
Oui, tout à fait. Donc en fait, je voulais témoigner juste, je suis médecin à Rambouillet. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vrai que le soir, on est en échec avec cette Covid. Et nous, on a pris le parti de se dire à Rambouillet qu'il fallait axer notre discours sur la prévention au maximum, et la prévention notamment au niveau des enfants. Moi, aujourd'hui, je les vois plutôt stigmatisés, alors que finalement, ce sont des victimes de la crise, et ils vont supporter demain le poids de la dette. Donc moi, l'idée, ce qu'on va faire à Rambouillet, c'est un projet de prévention auprès des lycées et des collèges. On pense qu'on leur a fait remplir un questionnaire. On s'est aperçu que finalement, ils savaient très bien ce qu'étaient les mesures barrières, mais finalement, ils ne comprennent pas forcément le bien fondé de les pratiquer, de les faire. Donc du coup, on s'est dit, on va leur faire faire ce questionnaire, ils ont répondu. Maintenant, on va leur faire... tous les professeurs vont revoir avec eux les résultats de ce questionnaire et de cette enquête. Et derrière, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une formation par les pairs. Par les pairs PAIR. Les enfants, finalement, notre objectif, c'est qu'ils se forment entre eux dans l'idée de pourquoi pas être des ambassadeurs de la prévention et des mesures barrières qui manquent tant aujourd'hui dans ce pays.
Et vous pensez qu'avec ce processus d'éducation, ça va permettre de vraiment freiner l'épidémie? Ce sera plus efficace qu'un reconfinement comme ce que l'on vit actuellement?
Alors, j'ai pas pour objectif et ambition d'envisager de régler la crise grâce à ma prévention, mais je pense que la santé publique en France est au point mort depuis des années. C'est catastrophique. La prévention, on est nul. On est dans le soin à tout va et dans la prévention dite secondaire, une fois que la maladie est arrivée. Moi, j'en ai marre et j'aimerais, mon Dieu, que dans ce pays, on fasse un peu plus de prévention primaire, c'est-à-dire avant que ne survienne la maladie. Donc la prévention primaire pour la Covid, ce sont les mesures barrières, c'est-à-dire tout ce qu'il faut, que les gens l'entendent, parce que nous, les soignants, on n'en peut plus. Et l'idée de faire des mesures barrières et de les respecter, ça pourrait être effectivement un moyen de contenir au moins pour partie l'épidémie.
Merci d'avoir témoigné, Guillaume Frédéric Valtou, en quelques secondes.
En quelques secondes, mais l'auditeur met le doigt sur effectivement une des faiblesses structurelles de notre système de santé qui n'est pas assez tournée vers la prévention. J'évoquais que cette crise a mis le doigt sur la faiblesse de l'hôpital et la manière dont on l'a mal considéré pendant des années. Cette crise, elle met le doigt sur un certain nombre de dysfonctionnements. Si après la crise, on ressort avec les mêmes réflexes, les mêmes organisations dans notre système de santé qu'avant, c'est qu'on n'aura rien compris et au contraire, il y a un gros travail pour remettre tout ça à plat.
Merci à nos invités Catherine Hill et Frédéric Valtou, c'était le téléphone sonne. La rédaction en chef Thibaut Cavaillès, la préparation de l'émission Nathalie Poitevin, Amélie Stadelman avec Amel Meyer et Mathieu Mondoloni. La réalisation Lauriane Toulmont avec Ronan Mahé, Henri Bérec et Florent Layani.